France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. C'est un prêtre qui parle dans le roman qui nous occupe aujourd'hui. Il met des mots sur ce qu'est l'amour, tandis que le texte tout entier, lui, met du temps, des choses, des gestes, des silences, des agacements et des tendresses. C'est un book club de l'amour aujourd'hui, puisque vous avez choisi ce titre tout simple et si grand pour votre dernier roman, François Bégaudeau, paru aux éditions Verticales. Vers 15h50 et grâce au réseau des correspondants à l'étranger de Radio France, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, Juliette Pietraszewski nous appelle de Malaisie, où des livres sont saisis par les autorités pour des raisons politiques, ce qui génère quelques inquiétudes. En fin d'émission, nous jouerons au grand jeu des pages musicales pour se quitter, comme chaque jour, en chanson. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club et bienvenue à vous, François Bégaudeau.
Merci.
L'amour apparu aux éditions Verticales, on va y venir, mais ici tout commence par un questionnaire lecture. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire, François Bégaudeau ?
Alors la légende familiale prétend, mais il faut se méfier des légendes familiales, que j'ai appris à lire tout seul en lisant Télé 7 jours. Enfin disons, parce que curieux d'avoir les programmes de télé, j'étais très télévore quand j'étais enfant, et bien donc j'étais acculé à devoir apprendre à lire, et donc j'aurais appris tout seul avant même le CP. Est-ce que c'est vrai ?
Mais faut-il vraiment se méfier de la légende familiale en la matière ?
Je dirais qu'en l'occurrence, la légende familiale des Bégaudeau, on ne devrait pas trop s'en méfier parce qu'on n'est pas du genre à être très mythomane dans la famille. Ce n'est pas vraiment une famille qui a
produit beaucoup de mythologie. C'est peut-être une image qui a existé.
Donc c'est possible, c'est possible. En tout cas, je sais que je savais lire avant d'entrer au CP, ça je le sais.
Alors qu'est-ce que vous gardez comme souvenir d'un apprentissage pour un enfant qui le savait déjà un petit peu ? C'était quoi alors ? Il y avait quand même un peu de découverte dans le déchiffrement une fois arrivé au cours préparatoire ?
Je pense que j'étais comme pas mal de petits écoliers. J'étais très angoissé par l'école et je me souviens très bien qu'à l'abord du CP, j'étais persuadé que j'allais pas savoir faire. Et ma maman, très gentiment, me disait « Mais si, tu vas savoir faire, tu sais, tout le monde sait faire, tu apprendras en fait. Tu n'es pas censé savoir faire avant, tu y vas pour apprendre. » Mais moi, ça m'angoissait, j'avais envie de tout savoir avant. Donc déjà, il y a un gros passif d'angoisse avec l'école, c'était déjà noué à ce moment-là.
Après, vous devenez quoi comme genre d'enfant lecteur ? Ou si vous devenez un enfant lecteur ?
Comme pas mal de garçons, je crois. Je dis bien de garçons, parce que je pense que c'est assez genré, cette affaire. Et on l'observe encore, et je l'ai observé moi-même comme prof de collège à une époque. J'ai beaucoup lu quand j'étais enfant, donc à l'école primaire, donc des bibliothèques vertes, des trucs comme ça. Tout ce qui me passait par la main, je disais vraiment beaucoup, j'adorais ça. Et à partir de la sixième, j'arrête de lire. Voilà. Et là, il va y avoir un blackout de lecture à quelques livres près par an, Vraiment, peut-être les livres
obligés
nécessaires pour le collège,
ouais,
absolument. Et jusqu'en troisième, je dirais. Donc, je pipote les fiches de lecture, je lis à peine les livres, alors que j'étais vraiment un grand lecteur. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc qui se passe du côté du collège chez les garçons. Peut-être que le métabolisme de lecture et le métabolisme masculin de ces époques-là, de cette période-là du développement masculin, sont relativement incompatibles. Je crois qu'il faut vraiment creuser ça parce qu'il y a un gros sujet. Et puis, à partir de la seconde ou la fin de la troisième, là, je découvre la littérature, en fait. Je pense que ce que je n'aimais pas non plus, c'était ce qu'on appelle l'espace intermédiaire, qui s'appelle la littérature jeunesse, que j'ai appris à aimer par la suite, mais au moment où j'en aurais été le cœur de cible, ça ne me plaisait pas, Alors par contre, c'est plutôt quand j'ai découvert des auteurs patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve vraiment dans les manuels de littérature, que là j'ai vraiment eu un flash, quelque chose, une connexion, assez banalement avec des auteurs comme Camus ou Sartre, Boris Vian...
Qui vous sont enseignés en seconde.
Ou alors que je complète par moi-même, J'épluche un peu le manuel littéraire, le manuel de lettres, et je vois ce qu'il y a à lire, Je vois les grands auteurs, puis j'y vais par moi-même. À ce moment-là, je deviens vraiment un lecteur actif. En seconde, je me souviens avoir lu... c'était tout à fait canonique d'ailleurs de la part du prof de français qui s'appelait Monsieur Maurice. Je m'en souviens évidemment, on se souvient souvent de ses profs, c'est marrant comment ça nous marque. Il nous avait fait lire Britannicus de Racine, très scolairement.
Corpus, voilà.
Et alors là, grande émotion devant, je pense, cet alexandrin et je pense devant la psychologie racinienne. Je sens qu'il y a quelque chose là qui va m'intéresser et qui continue à m'intéresser. D'ailleurs, parce que Racine, c'est surtout l'auteur que j'ai lu le plus dans ma vie, je pense.
Et une émotion qui s'avoue, qui se vit, vous en parlez, vous échangez avec ce prof, vous en parlez avec vous-même, avec vos copains.
L'échange avec le prof, il est réduit à portion congrue. Il est réduit au fait qu'on va y avoir un contrôle sur le livre et je vais faire quelque chose. Il va trouver que c'est intéressant. je crois que je me souviens très bien que le sujet, c'était en quoi ça nous parle maintenant, quoi. Un truc très banal, en fait, quoi. Et là, je pense que j'avais fait de la psychologie. J'ai dit, oui, bien sûr, ces affrontements, l'amour cruel, l'amour-haine, la jalousie, le conflit, le rapport de force. En fait, nous connaissons ça dans nos vies. C'est marrant de dire un truc comme ça à 15 ans, parce que je suis pas sûr que j'avais vraiment éprouvé les rapports de force encore.
Et est-ce que vous êtes toujours d'accord? Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec le fait qu'on connaît Racine dans nos vies?
Ah oui. Ah oui, pour moi, Racine, grand littérateur, quoi. Parce que cet alexandrin, on le dépassera pas de sitôt. Il est indépassable. Et grand psychologue, surtout. Grand psychologue, celui qui fouille là où en plus les choses sont ambivalentes, mélangées, hybridées. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est Phèdre qui va vers Hippolyte pour lui dire non, mais je ne peux pas t'aimer, c'est impossible. Je suis venu te dire que je m'en vais, comme dirait Gainsbourg. Mmh. C'est-à-dire, c'est la dernière fois que je te vois, puisque notre amour est interdit, je m'en veux tellement de t'aimer. Et plus elle le dit, et plus elle reste. Ça, c'est de la psychologie, vous voyez.
Est-ce que vous cherchez des choses dans les textes, François Bégodeau?
Non, je pense que je cherche... Maintenant, là, le lecteur que je suis, mais je pense que ça date d'il y a très longtemps, j'y cherche tout simplement de la littérature, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que la littérature?
Alors, qu'est-ce que c'est, ouais.
Je pense que c'est un certain rapport au monde. C'est un rapport au monde qui se caractérise pour moi par le suspens du jugement, par exemple. Ça, je me sens très à l'aise dans la littérature pour ça. J'ai toujours l'impression qu'on raconte des vies, qu'on raconte la vie, qu'on saisit le réel sans s'empresser de le juger. Ce qui est une maladie à laquelle nous sommes tous sujets dans la vie. Nous jugeons beaucoup. Politiquement, nous jugeons beaucoup. La politique, c'est du jugement. Je vais choisir entre telle ou telle orientation politique ou telle autre. Et autant de choses qui me paraissent assez nécessaires dans la vie. Mais c'est aussi un poison, le jugement. Et j'ai l'impression que la littérature, c'est un mode d'énoncé, un mode de rapport au monde qui nous...
Qui serait à l'abri de ça, pas toujours.
En tout cas, moi, les littérateurs qui s'empressent de commenter tout ce qu'ils sont en train de saisir à chaque ligne ne m'intéressent pas. Moi, je les appelle des bavards. J'ai des littérateurs bavards comme ça. Bon, il y a des bavards sublimes, hein. Il y a des bavards géniaux.
Mais c'est pas ceux que vous aimez.
Non, moi, je préfère une certaine épure, un certain retranchement du discours. Qui me paraît caractériser la littérature par rapport à d'autres régimes dénoncés, qui seraient par exemple l'essai, ou la philosophie, ou des textes qui ont des choses à dire.
Ce que vous pratiquez parfois.
Ce qui m'arrive de pratiquer, ouais. Mais je pense que du coup, de le pratiquer par ailleurs me permet sans doute de pouvoir m'en passer quand je me mets en position littérature, quoi. J'ai mon content d'opinion, je dirais. Quand j'arrive devant un roman.
C'est bien dit.
Ça va. J'ai suffisamment causé par la suite.
Y compris avec vous-même.
J'ai déblatéré, j'ai dégoisé, j'ai fait tout ça. Et donc après, alors là, on se met en position roman et là, on ferme sa gueule.
Est-ce que vous avez une table de chevet?
C'est un carton.
Est-ce qu'il y a des livres posés sur ce carton?
Non, puisque je ne lis pas depuis des problèmes de dos qui me sont venus assez... On parle vraiment de choses vraiment passionnantes et historiques, mais j'ai commencé à avoir un peu mal au dos quand j'avais 20 ans. Ce qui fait que lire allongé, mais impossible, en tout cas pénible. Donc j'ai pris l'habitude, dès cette époque-là, de lire assis, ou à mon bureau, ou sur un fauteuil. Ou
voilà. Est-ce que ça change quelque chose?
Moi, je me suis toujours un peu raconté qu'on était d'autant plus attentif quand on lit assis. Ce qui, à mon avis, me paraît. Ouais, peut-être. En plus, moi, j'ai une lecture, alors peut-être beaucoup, hyper attentive. C'est-à-dire que moi, je lis stylo en main.
Tout, pour tout. Poésie, roman, tout compris, toujours stylo en main.
Je mets des trucs dans la marge. Quand je suis content, je mets une grosse croix, enthousiaste. Quand il y a un énoncé qui me déplaît, je le souligne en gondolant. Enfin, j'ai ma petite signalétique à moi, quoi. Enfin,
mais quoi, ancien prof de français?
Pas du tout, parce que ça précède. Je l'ai fait. En fait, j'ai été marqué par peu de profs dans ma vie. Je veux dire, au sens où je considérais qu'ils m'aient vraiment appris des choses qui se soient inscrites durablement en moi. J'ai pas ça dans mon parcours. En revanche, j'avais un prof de philo qui, par ailleurs, en hypocagne, je veux dire, dont j'ai pas un grand souvenir sur le contenu même de ses cours, mais il avait commencé par nous dire en début d'année, il serait temps maintenant que vous appreniez à lire ce qui s'appelle lire. Alors lui, ce qu'il entendait par lire, ce qui s'appelle lire, c'est qu'on est capable pratiquement de réciter par cœur ce qu'on a lu. Ce qui est évidemment une gageure, un truc impossible. Mais nous, du coup, alors le type se mettait, c'était un vieux bonhomme. Enfin, il nous paraissait très vieux à l'époque, il devait avoir 65 ans, du haut de nos 18. Et alors là, il se mettait à réciter le discours de la méthode, quoi. Ça nous impressionnait. Alors, c'était un peu de l'épate.
Oui, parce que ça peut être utile de savoir des cartes sous le bout des doigts, comme ça peut être parfaitement inutile.
Je pense que c'est globalement inutile. Mais en tout cas, ça nous indiquait que lire, ça rigolait pas, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait pas passer comme ça d'une phrase à l'autre, enjamber tout. Et je pense qu'effectivement, l'expérience de lecture, c'est toujours une expérience de la perte. Quand on lit un roman de 400 pages, il est évident qu'on oublie plein de trucs, on passe sur plein de phrases. Une fois qu'on en parle à des copains ou à des copines après, finalement, il nous en reste une espèce de brouillard, même d'un livre qu'on a lu avec enthousiasme. Alors peut-être la façon de conjurer ça, cette perte, qui peut-être doit m'angoisser un peu, je pense, eh bien, j'ai tendance à prendre des notes, à souligner, de sorte que je puisse relire après mes notes, quoi. Et j'ai l'impression que quelque chose, du coup, se fixe en moi. Mmh.
Est-ce qu'il y a un livre avec lequel vous auriez rendez-vous ? Un truc qui vous attend, un livre qui vous attend.
Ah ouais, il y a plein de livres que j'ai pas lus et qui sont absolument cultes ou alors absolument célèbres. Il y en a encore plein.
Mais c'est pas tellement ça que je demande. C'est plutôt savoir est-ce que, pas nécessairement ni culte, ni classique, ni célèbre, mais un qui vous attendrait, un dont vous vous dites, oui, je pense qu'un jour j'irai.
Ben oui, alors je pense. Alors il se trouve que c'est un livre célèbre, mais c'est vraiment un livre dont je repousse la lecture d'année en année, parce que je lis beaucoup l'été, notamment les classiques, et c'est La Divine Comédie.
Dedans.
Dont j'ai dû lire deux vers, je pense, en 50 ans.
Et alors, pourquoi vous vous dites que vous avez rendez-vous avec ce texte-là ?
Parce que je sens que ce texte tient un truc. Alors, je ne suis pas le premier à le dire. Hein. Il semblerait que ce texte émeuve beaucoup ses lecteurs.
Oui, ça
il les marque durablement. Cela dit, des fois, il y a des fausses valeurs. En tout cas, des choses dont on nous a dit qu'elles nous marqueraient à vie et qui ne nous marquent pas du tout. Par exemple, cet été, j'ai lu Au-dessous du volcan. Je l'ai relu parce que je l'avais lu rapidement et mal à 20 ans. Et alors, j'admets tout à fait qu'il y a quelque chose là de très, très grand. Mais de fait, c'est un livre que je vais m'empresser d'oublier. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout mon univers. C'est un livre qui s'est rien passé entre lui et moi.
Alors que peut-être Dante, oui.
J'ai l'impression que Dante m'attend. D'ailleurs, il est assez impatient de me rencontrer, enfin, je crois.
Dans le questionnaire, il y a justement une question sur le livre qu'on aurait aimé avoir lu à 20 ans, ou plutôt, autrement prononcé, ce serait quel livre vous offririez aujourd'hui, François Bégodeau, au jeune homme que vous étiez à 20 ans ?
Je pense que je lui offrirais des livres que je n'ai lus qu'à 30 ans et qui m'ont vraiment marqué, et qui sont les romans de Beckett. Parce que je pense qu'à 20 ans, je lisais beaucoup de théâtre, bêtement. Enfin, j'allais peu au théâtre, mais j'en lisais beaucoup. Et j'avais lu tout le théâtre de Beckett, quoi. Parce que, bon, évidemment, j'avais été un peu ébloui par les trucs qu'on apprend à l'école, quoi. Enfin, qu'on lit à l'école en termes de Godot et fin de partie, éventuellement. Et alors, je ne connaissais pas du tout ces romans, qui de fait ont toujours un peu moins commenté que les pièces, quoi. Et donc, j'aurais bien aimé lire ça, parce que je pense que ça m'aurait fait gagner du temps sur ma compréhension de la littérature. Je crois que je me suis un petit peu embarqué des fois dans des fausses pistes, quand j'étais étudiant en lettres. Mais quand on fait des études de lettres, je ne dis pas du tout que ce soit inutile, parce que les études de lettres, elles permettent quand même un peu de se foutre le nez dans le texte de temps en temps. Au moins de s'arrêter sur les pages. Et ça, c'est vachement bien.
Au sens de vraiment faire avec la matière, s'interroger sur des phrases, des constructions.
Moi, j'aimais bien le commentaire composé, qui était vraiment le truc au nid des élèves, parce qu'on ne savait jamais quoi dire. Comment ça, je vais faire 6 pages sur un poème de 12 vers, c'est quoi ce... Mais au moins, on s'y arrêtait pendant 4 heures, quoi. Et c'était un super exercice d'aller peser quand même le fait que la place d'un adverbe peut-être change peut-être le sens lui-même ou la tonalité générale de la phrase. Ça m'a vraiment marqué. En revanche, je crois qu'il y avait une fausse piste dans les études de lettres, c'est qu'elles étaient quand même grossièrement thématiques, quoi. Elles étaient, finalement, on parlait assez peu de style, on parlait assez peu de phrases, on parlait assez peu de l'artisanat.
De quoi parle le texte ?
Voilà, ce qui n'est pas négligeable, hein, parce que les livres parlent de quelque chose. Hein, je veux dire, ils ont cette impureté-là, quoi. Mais je dirais que, je ne suis pas sûr qu'on sorte des études de lettres en ayant vraiment conscience et pris la mesure de ce que c'est que l'artisanat littéraire, dont je n'ai pris la mesure qu'en écrivant.
Ou en ayant lu le roman ou les romans de Beckett un peu plus tard.
C'est ça, là je voyais, mais écrire c'est ça quoi. Moi je voulais écrire comme ça. D'ailleurs mon premier livre, ça n'a pas du tout été remarqué à l'époque. Et heureusement pour moi, c'était un livre qui s'appelait Jouer juste, qui a pourtant été beaucoup lu. Hein, il avait eu plutôt du bol comme premier roman, quoi. La presse l'avait beaucoup lu, tout ça. Et il était totalement, il y avait même des expressions mot pour mot qui venaient des lectures que je venais de faire, de l'innommable, de Commencet, de Molloy, des choses.
Qui sont les romans de Beckett, les titres des romans de Beckett. Est-ce qu'il existe une photographie de vous, un livre à la main, tout âge confondu?
Ça doit exister, parce que des fois, dans les dédicaces, on vous demande de prendre votre propre livre pour vous photographier. Donc, déjà, il doit y avoir des photographies avec un de mes livres.
Mais on va dire que ça, c'est un peu le champ professionnel.
Mais petit, vous voulez dire ?
Non, pas forcément, mais plutôt des photos qui seraient de la vie quotidienne, pas des salons littéraires.
Non, mais ça tient peut-être à mon quotidien. D'une part, j'ai eu un premier monde quotidien de 20 ans avec une famille qui ne prenait pas de photos, donc il n'y a aucune archive de la famille. Et ensuite, il n'y a personne chez moi pour prendre des photos.
Quand vous lisez ?
Quand je lis.
Pour des raisons absolument tragiques, on a beaucoup parlé des profs de littérature ces derniers jours, François Bégodeau. Quel souvenir vous gardez de cette grande entreprise de la transmission des lettres, de la littérature et de la lecture, place à laquelle vous avez été ? Évidemment, c'est dommage de vous demander de répondre rapidement, mais c'est pourtant ce que je vous demande.
Disons, je me sens un petit peu embarrassé de répondre ce que j'ai envie de répondre dans le contexte que vous venez de suggérer.
D'accord.
Où des profs ont été... maltraité, et c'est peu dire.
Assassiné même.
Voilà, assassiné, massacré. injustement, et c'est bon, c'est un vertige, quoi. C'est un,
donc peut-être c'est un, le contexte n'est peut-être pas le bon pour évoquer l'endroit.
En fait, pour l'évoquer aussi négativement que j'aurais envie de l'évoquer, si vous voulez, parce que la seule chose que je peux dire, c'est qu'il m'arrive quand même encore beaucoup trop de fois de rencontrer des gens qui, loin d'avoir été initiés ou convertis à la littérature à l'école, on ont été dégoûtés. Et là, je pense qu'il y aurait une question à se poser sur qu'est-ce qu'on fait si mal pour que tant de gens sortent du lycée en se promettant à eux-mêmes qu'ils ne refoutront jamais les yeux dans Balzac. Ce grand auteur.
Tellement génial. On n'a qu'à dire qu'on ouvrira cette conversation qui, en fait, en sont au moins deux, François Bégoteau, dans un autre cadre.
Mais avec plaisir.
On va aller vers votre livre avec une chanson. Elle figurera sur le prochain album de Beyrouth. Moi, je pensais qu'il allait complètement arrêter la musique. C'est donc une bonne nouvelle, ce groupe de musique folk américain formé notamment par Zach Condon. Le titre s'appelle « So Many Plans ».
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Toute la journée, l'un sur l'autre, on finit par se bouffer le nez. Ça peut pas dire, ça peut pas tenir, dit le copain. Il y en a qui tiennent, pourtant, répond Jacques. Et c'est à ceux qui tiennent que se consacre votre dernier roman, François Bégoteau, un livre qui tient, lui aussi, dans son tout petit corps, le temps de deux existences entremêlées. En un paragraphe, on monte dans une chambre pour faire l'amour sur des serviettes éponges. En un autre paragraphe, on accouche d'un enfant. On a dansé au mariage, on réfléchit au prochain cadeau d'anniversaire qui ferait plaisir. Ça va vite, mais calmement. Quand ils étaient jeunes, Jeanne et Jacques Moreau apprenaient la mort de Pompidou dans les nouvelles. nouvelle au transistor, papier peint fleuri, bistrot, Serge Lama à la télé, et il ne vous faut que quelques pages pour que le vivier principal de l'emploi soit d'un coup l'informatique. Alors plus encore que l'amour qui tient, c'est le temps qui passe qui semble vous intéresser. À l'enterrement, un personnage regarde les dates inscrites sur les tombeaux et compte patiemment le nombre d'années vécues. C'est exactement ce que fait votre texte, François Bégodeau. L'amour, c'est son titre. Il a paru aux éditions Verticales. Tout à l'heure, je disais que c'était un titre aussi petit et simple que grand. Comment vous l'avez trouvé ?
Ouais, c'est pas... Ne cherche pas, trouve, je disais, je crois, à Picasso. Alors là, ça, c'est vraiment... C'est pas moi qui l'ai trouvé, quoi. Il s'est trouvé tout seul et il s'est même imposé, comme on dit, parce qu'il n'y en avait pas d'autre possible, en fait. Il n'y en avait pas d'autre possible à partir du moment où... Le livre étant très économe en lexique amoureux, soit du côté de ces personnages qui sont assez peu
sauf chez le prêtre,
expressifs.
Que je citais en introduction.
Prêtre, bien sûr, tout à fait. Ben là, c'était ma façon de placer, je veux dire, je me suis permis de placer du Saint-Paul à ce moment-là, parce que l'occasion du mariage et du discours du prêtre le permettait, parce que j'aime beaucoup ce texte. Mais c'est quand même un registre textuel que je m'interdisais pour ce livre. Et alors, bah, du coup, où suggérer, par quoi, par quel lieu et par quelle voix ou par quel petit truc suggérer à mon lecteur que j'entendais bien d'écrire de l'amour dans tout ça. Il y avait plus que le titre comme espace. Il aurait pu y avoir l'argu, comme on dit, sur les petits textes qu'on joint à
c'est
un livre
pareil.
Quand il sort, mais c'est pas pareil. Et donc, je me suis retrouvé avec ce titre dont je savais bien qu'il était à la fois impossible et nécessaire. Et j'ai choisi finalement le nécessaire, mais c'est vraiment un titre impossible, quoi. Franchement. Enfin, je sais pas, moi, même un écrivain
dépend.
Que j'aime bien ou une écrivaine que j'aime bien me dirait « Mon nouveau livre s'appelle L'amour », je pense que je la regarderais ou je le regarderais en me disant « Mais t'es sûr que ça va bien ? T'es sûr de ce que tu fais quand même, là ? Parce qu'il faut quand même le porter, ce truc. T'es prêt ?»
Mais ça dépend, il est tout en minuscule. C'est aussi ça que permet la typographie des éditions verticales, c'est qu'il n'y a pas de majuscule.
Et ça m'arrange, ouais.
Tout est en minuscule et tout sera en minuscule tout le temps. Donc on peut aussi considérer que c'est un texte qui refuse de se faire écraser par ce mot-là, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle.
Oui, je pense qu'il suffit. Enfin, je veux dire, le seul antidote à ce titre, quand même, qui a quand même une charge un peu emphatique ou empoulée, je dirais, c'est de tout de suite se précipiter vers le premier paragraphe. Et là, évidemment, un montage doit se créer dans mon esprit, dans l'esprit du lecteur surtout, entre le registre de langue que j'utilise dans ce premier paragraphe et ce titre. Là, ça commence à jouer.
Attendez, on va se jeter sur le premier paragraphe.
Oh, non, mais n'importe quel paragraphe,
c'est
je dirais.
Faux, en plus, c'est un faux coup de foudre, le premier paragraphe. Enfin, c'est une sorte de fausse piste.
Oui.
La première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage. Quand c'est le jour de nettoyer les gradins, la mère embarque sa fille, on n'aura pas trop de quatre bras. Jeanne y gagne 20 francs, ça fait un petit complément à sa paye de l'hôtel, et puis ça l'occupe. On ne sera pas du côté du grandiloquent.
Voilà, en gros. Je pense que vous m'avez compris.
On va écouter une archive de François Mauriac, qui semble avoir pris notre piste.
D'abord, je voudrais vous faire remarquer que le fait que je peins l'éternel drame que résume la situation d'Andromaque, enfin, on n'aime pas qui vous aime. On est poursuivi par quelqu'un qu'on n'aime pas, on poursuit quelqu'un qui ne vous aime pas. Enfin, c'est l'éternelle histoire d'Hermione qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime un mort, n'est-ce pas ? Mais cela ne signifie pas que personnellement et dans la vie, je ne crois pas qu'il existe des couples heureux, qu'il ne soit pas très fréquent de trouver un être qui est aimé par l'être qu'il aime. Enfin, c'est la nécessité, si vous voulez, c'est la grande tentation du romancier, du dramaturge, de peindre l'amour malheureux. L'amour heureux n'a pas d'histoire. Ça n'explique pas tout, naturellement. Je veux dire que il ne faut pas tout de même perdre de vue cette chose très simple que le romancier, que le dramaturge va tout droit à l'amour malheureux, parce que c'est l'amour malheureux qui lui fournit son drame.
La voix de François Mauriac dans cette archive de novembre 1952. Trop belle archive, il est au micro de Jean Amrouche. Un petit peu plus tard, il parle évidemment de tout son rapport au désert dans l'amour, au désert quel amour, qui était un titre d'un de ses livres. François Bégodeau, l'idée d'un amour malheureux qui donne comme ça, gratos, super vite, son drame au romancier. Vous prenez clairement le contrepoint. Pour quelle raison ?
Bah, peut-être parce que c'est... pas fait. Moi, j'ai déjà raconté l'amour malheureux ou l'amour asymétrique avec tous les affres qu'on connaît bien de ce sport-là, ce sport international et universel. Je trouvais quand même que la littérature probablement avait fait une part un peu trop minimale à un autre registre amoureux qui serait l'amour régulier, je dirais. L'amour où il y a, sans drame finalement. Parce qu'effectivement, Mauriac reconduit là une sorte de cliché vrai, de lieu commun vrai, de la pensée sur l'art ou la littérature en particulier, à savoir l'amour heureux n'a pas d'histoire, donc l'amour heureux ne peut pas entrer en littérature puisque la littérature raconte des histoires. Moi, je me porte surtout sur le troisième terme de ce syllogisme ou de ce raisonnement. Est-ce que la littérature est tenue de raconter des histoires? Est-ce qu'elle a un pacte diabolique et à vie éternelle avec le drame? Ben non.
Et est-ce que c'est forcément la même chose? Est-ce que raconter des histoires a forcément à voir avec le drame?
Bah, je pense que, en tout cas, il y a histoire, à un moment où il y a conflictualité, il y a des empêchements. Quelque chose m'arrive si quelque chose rate un peu. Ça c'est vrai. Je pense, pour avoir écrit pas mal d'histoires moi-même, on sait bien que ce qui va fonder un récit, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais je suis tellement pas d'accord avec l'idée que vous ne racontez pas d'histoire dans ce texte, François Bégaudeau.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'au bout du compte, on finit toujours par raconter des histoires. Et là, je raconte l'histoire de Jeanne et Jacques et de leur couple. Mais je dirais qu'en tout cas, il y avait le parti pris d'une histoire adramatique. En tout cas, même dans ces pics dramatiques, de les dédramatiser. Oui. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus une question de tonalité que de sujet en tant que tel, parce que oui, il y a une charge dramatique dans la vie de Jeanne et Jacques, ne serait-ce que sa fin. Mais c'est le traitement qui, comme d'habitude en littérature, c'est comme toujours le traitement qui distingue un auteur d'un autre.
Si on met justement un peu les mains dans le cambouis, en quoi ce traitement-là, il rend l'histoire adramatique? Je pense à une scène très particulière où Jeanne est dans la cuisine, elle est en train de, je sais pas quoi, éplucher des trucs, et elle va s'évanouir, elle va tomber par terre. Et c'est vraiment l'histoire d'une virgule, c'est l'histoire d'un mouvement de Jacques qui l'a rejoint dans la cuisine et qui fait que, ben, on comprend qu'il se passe quelque chose de grave pour Jeanne. Et comment ça se joue? Est-ce que, juste une fois que vous avez trouvé la tonalité du texte, ben, vous n'avez plus qu'à écrire d'une certaine manière? Comment ça se joue l'idée de faire tout en un peu moins, François Bégaudeau?
Mais je pense qu'il y a deux choses. Moi, je pense que notamment dans ce texte, mais dans d'autres textes aussi. Bon, quand je vois arriver sur la page un moment du récit où il va se passer quelque chose de vraiment dramatique, en l'occurrence, là, c'est une maladie qui va s'avérer très grave. Alors, immédiatement, je me mets en position de dédramatiser. C'est-à-dire que plus le lecteur peut comprendre que là, c'est du lourd, plus je vais essayer de trouver la formulation la plus légère et la plus...
Mais pour des raisons littéraires ou pour des raisons éthiques ou de rapport à l'existence?
Je pense que c'est une histoire de tonalité, c'est presque musical, sinon j'aurais l'impression de faire ton sur ton. Sinon j'aurais l'impression de redoubler, de faire doublon par rapport à la chose même. Si la chose est dramatique, bah, il est, je veux dire, superflu et peut-être même de trop, et presque une faute de goût pour moi de rendre compte dramatiquement d'une chose dramatique. Et alors après, c'est aussi un calcul d'émotion que moi j'éprouve beaucoup comme lecteur ou comme spectateur de cinéma. Bon, je vois bien qu'à chaque fois qu'on me raconte quelque chose de dramatique de façon extrêmement rentrée, ça suscite beaucoup plus d'émotions chez moi que si on me le racontait dramatiquement. C'est quand deux personnes s'embrassent au cinéma et qu'en plus il y a de la musique, je prends vraiment un exemple bidon, hein, mais je pense que ça sera compréhensible. Alors là, moi, ce baiser ne m'émeut plus. Ça, c'est simple. Si ce sont deux personnes qui s'embrassent dans un contexte a priori non romantique, un peu trivial, alors là, je ressens quelque chose de l'ordre de l'émotion.
Vraiment. Comment est-ce que Jeanne et Jacques débarquent chez vous ?
Je pense qu'il débarque par des observations d'enfance, d'adolescence, et puis aussi par la suite un certain profil de personnes et donc de couples qui m'ont toujours suscité en moi une grande tendresse. Bon, alors je ne m'explique pas, je pourrais pas expliquer cette tendresse parce que bon, il y a un moment on n'est pas, comment dire, susceptible d'expliquer tout en soi, et notamment
bien
les mouvements
sûr,
comme
ouais.
ça les plus profonds. J'ai toujours ressenti comme ça ces gens, bon, qui ont une espèce de vie presque inaperçue, quoi, qui passent en dehors des radars, quoi, qui est pas, et qui sont finalement assez peu vus dans leur propre vie.
Mais inaperçus par qui? Parce qu'on dit souvent oui, ces vies non racontées, ces vies non montrées, mais en réalité, enfin, je veux dire, la plupart des gens qui vivent dans notre pays ont ces vies-là non racontées, non montrées. On passe notre temps à dire que ce sont des vies un peu particulières parce que pas racontées, mais ce sont les vies majoritaires, François Bégaudeau.
Mais c'est bien, mais je suis absolument d'accord avec vous et c'est pour ça que je me mets à écrire, puisqu'il y a un hiatus au départ. Ce sont précisément des vies majoritaires. Or, elles sont minoritaires dans la représentation, dans l'ordre symbolique, on pourrait dire, c'est-à-dire les œuvres, les trucs comme ça. Et donc, bah, du coup, je rectifie un peu le tir à ma petite échelle, quoi. Je me dis, mais en fait, l'expérience majoritaire de l'amour, c'est quand même plutôt celle-là, j'ai l'impression. Or, effectivement, c'est très minoritaire. C'est souvent, en fait, dans la littérature, c'est souvent des personnages de second plan. ils vont passer comme ça un moment dans la vie des personnages principaux à qui il arrive des choses extrêmement dramatiques avec des transports amoureux, des hauts, des bas, des pics, tout ça, des retombées. Et bon, alors parfois ces gens-là ont des parents. Alors il y a un week-end chez les parents, il y a un déjeuner chez les parents. Et là, on va entrevoir ces petites vies moyennes, mais c'est simplement, c'est un arrière-plan.
Mais vous voyez, là, même là, vous les dites petites et moyennes.
Ben, parce qu'elles sont petites et moyennes, telles que considérées par les gens. Moi, je veux dire, ayant fait l'amour, je me sens assez, disons, en paix avec ma conscience. Puisque précisément, il semblerait que ce livre ait pour discours implicite le fait que précisément, ces gens valent littérature.
Mais pas en tant qu'elles sont petites et moyennes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir lu ce texte, et c'est pour ça que je l'ai trouvé beau, pas comme un texte qui fait littérature avec des vies qui sont petites et moyennes. Comme un texte qui raconte la vie de Jeanne et Jacques.
Et mais ça me va très bien. Ça me va très bien comme énoncé. Mais je pense que c'est parce que vous accolez au mot moyen un jugement de valeur ou quelque chose de cet ordre-là.
Alors qu'en fait,
ce que j'entends par moyen, c'est vraiment, comme on dit, l'expérience moyenne, c'est presque statistique.
Ah, au sens statistique du terme.
Mais oui, c'est ça. On parlait de majoritaire. Majoritaire est une notation quantitative, quoi. Mmh. Je veux dire, sans jugement, en fait. C'est l'expérience majoritaire. L'expérience moyenne, c'est comme ça. J'ai l'impression que ça se passe plutôt comme ça. La façon dont je raconte, la façon dont Jeanne et Jacques se sont approchés peu à peu l'un de l'autre, j'ai l'impression que c'est l'expérience moyenne. C'est jamais le coup de foudre, c'est jamais love at first sight. En tout cas, ça arrive, bien sûr, hein, y compris dans la vraie vie. Mais c'est rare. En fait, souvent, un couple, ça se forme comme ça, par petites touches. On le voit pas venir. Il y a un moment, on se voit une première fois, puis une deuxième fois, on le fait même pas exprès, c'est souvent des coïncidences, on travaille ensemble, on s'est à peine vu le jour de la rentrée, si c'est dans un collège, ou de la rentrée à Radio France, par exemple, quand on fait le pot de rentrée, j'imagine que ça existe aussi ici. Et on se voit pas, on se considère vaguement, on se dit bonjour, on se présente, mais en aucun cas, on anticipe sur le fait qu'il pourrait y avoir de l'amour dans 6 mois. Et pourtant, ben, de rencontre à la machine à café, en coïncidence qui fait qu'on sort ensemble de la maison ronde. Tiens, tu vas par là, ben oui, je vais par là. Bon, on va faire un bout de route ensemble, puis on se met à causer. Et puis quelque chose finit par monter. Ce qui fait que la fois d'après, quand j'arrive à la maison ronde, j'ai très très envie de croiser cette personne. Cette fois, je provoque le croisement. Là, je deviens un sujet amoureux et actif.
On fait vraiment un très très gros bisou à toutes les personnes qui tournent dans cette maison ronde et qui sont un jour tombées amoureux.
Bah, j'imagine que cette maison ronde a dû abriter énormément de
couples. Il y en a plein. Ouais. Je disais que le discours, ce fameux discours de Saint-Paul qui est comme ça transmis par la voix du prêtre lors d'un mariage, François Bégodeau, il met des mots sur ce que par ailleurs chasse le texte le reste du temps. Oui. Le texte ne commente jamais le sentiment amoureux, ne vient jamais faire discours de l'amour. Il met quoi à la place de ces mots-là?
Eh bien, la vie. La vie qui, en général, est quand même, finalement, que ce soit la mienne ou la vôtre, nous qui sommes plutôt, on va dire, des gens des mots, vous et moi, on aime bien lire, on écrit, on commente des textes, mais beaucoup de gens n'ont pas forcément ce goût pour les mots, donc vivent des choses sans avoir l'occasion de les verbaliser, comme on dit. Dans ce cas-là, il faut que l'énoncé, il faut que ça passe par autre chose. Ben, ça passe par les choses même, par des gestes, par des situations. J'ai essayé de travailler à ça, quoi. C'est-à-dire comment le sentiment pouvait passer par des petits gestes presque inaperçus.
Comme quoi, par exemple, pour les personnes qui ne vous ont pas encore lu?
À peu près tout, mais je dirais. Par exemple, à un moment, Jacques, il a 21, 22 ans, il travaille avec son père, il en a marre parce que voilà, son père est artisan et ça se fait, voilà. Et il dit, de toute façon, mon père m'engueule tout le temps, j'en ai ras-le-bol, je vais peut-être faire l'armée, en fait, je vais m'engager professionnellement dans l'armée pro, quoi. Il le dit à Jeanne, alors ils viennent de se mettre en couple, on va dire, ils commencent à avoir leurs petites habitudes ensemble. Il lui dit comme ça, comme on parle d'un avenir professionnel, quoi. Et Jeanne lui dit, mais non, tu peux pas aller à l'armée, enfin, t'es sûr, tu sais, c'est compliqué l'armée, hein. D'ailleurs, est-ce que t'es sûr que tu vois, t'es pas tes parents, ils vont te manquer, quoi. Et tu les reverras quand, tes parents? Et évidemment, c'est d'elle qu'elle parle à ce moment-là.
Elle lui dit, par pas, je t'aime, reste.
Voilà, elle lui dit ça, mais elle lui dit pas. Elle lui dit pas, mais moi, je t'aime, et sans toi, je ne peux plus envisager maintenant ma vie sans toi, donc tu ne vas pas du tout t'engager à l'armée, moi, je te veux dans ma vie. Elle dit pas ça, pourquoi? Par pudeur, peut-être par peur aussi, encore un peu de se prendre un vent, parce qu'elle n'est pas sûre encore à ce moment-là qu'il y ait une telle réciprocité dans leur amour. Ils sont vraiment, comment dire, c'est embryonnaire leur amour à ce moment-là. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça. Moi, j'aime bien quand, dans une discussion, on voit bien que l'objet l'objet de la discussion n'est pas le bon objet. Voilà. Mais ça, c'est toutes nos discussions, et notamment les discussions de couple. Les engueulades de couple, on sait bien que c'est ça. On commence sur un petit truc du genre, de toute façon, moi, je voulais pas aller au théâtre, c'est toi qui m'as forcé à aller voir cette pièce. Oui, mais bon, elle était quand même pas mal, cette pièce, donc on s'engueule sur la pièce. J'ai aimé, t'as pas aimé. Je prends un créneau socio-professionnel ou sociologique bien particulier, des gens qui vont au théâtre. Mais ça arrive. Et puis finalement, bah de fil en aiguille, la scène de ménage ou la petite engueulade se développant, on va arriver au vrai point. Et le vrai point sera que, de toute façon, avec toi, c'est jamais moi qui choisis. Hop, monter en généralité. Et peu à peu, bah, ce couple va se découvrir des dysfonctionnements bien plus graves ou profonds que simplement une petite bisbille sur une pièce de théâtre.
Je le disais en introduction, il semble que le temps qui passe et peut-être le temps qui a passé entre la date de mort et la date de naissance, François Bégaudeau, est un des, je sais pas, presque des mouvements de ce texte qui s'appelle L'amour. On va écouter Annie Ernaux parler des années dans une archive de 2006. J'ai hésité.
Il est vrai que mon désir en entreprenant ce livre il y a déjà fort longtemps, puisqu'il a, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, c'était de raconter une vie dans l'histoire. Les deux absolument fondus d'une certaine manière. Dans une démarche, au fond, qui n'était ni l'histoire, je ne suis absolument pas historienne, et qui n'était pas non plus l'autobiographie. Quelque chose qui serait entre les deux, qui les mêlerait. Pourquoi ? Non pas par un concept qui me serait tombé dessus d'un seul coup, mais parce que j'ai toujours eu la sensation que ma vie n'était pas dissible sans prendre en compte l'histoire. Mais l'histoire dans la mesure où elle est vécue, et non pas l'histoire événementielle, et l'histoire telle qu'elle elle se transmet aussi, non pas par les livres d'histoire, mais par l'expérience qu'on en a dans les tables de famille, les récits. Ça n'est pas la mémoire en désordre. C'est de retrouver et de construire la trace de l'histoire dans une mémoire.
Bien, je voudrais d'abord vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris, il était exactement 22 heures, la mort du président Georges Pompidou. Nous allions commencer ce bulletin de 22 heures et puis simplement cette dépêche, une ligne, le président de la République, Georges Pompidou, est mort à 21 heures. Signé Professeur Vignol.
Un petit bout de Flash Info de 1974, François Bégaudeau, et juste avant la voix d'Annie Ernaux en 2010 qui parle de son roman Les Années. Elle dit « Il s'agit de construire la trace que laisse l'histoire dans la mémoire. Votre texte y travaille énormément le temps, tant du point de vue de l'histoire, au sens événementiel de l'histoire, que du temps qui passe à l'échelle des humains. Est-ce qu'après le mot l'amour, il y aurait pu avoir un sous-titre, le temps ? Comme ça, vous auriez fait vraiment deux grands mots, François Bégaudeau.
Alors là, le livre devenait définitivement impubliable, quoi. L'amour, le temps, sans virgule d'ailleurs, sans un virgule. Truc un peu comme ça, avec une sorte de la fêterie. Oui, non, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où je partais sur cette idée d'accompagner Jeanne et Jacques pendant 50 ans, je voyais bien que celui qui allait être le vrai écrivain et l'auteur au travail dans cette affaire, c'était le temps, beaucoup plus que moi-même, en fait. Et donc, c'est le temps qui allait présider à tout ça. Et donc, cinq décennies bien situées, je veux dire, c'est en France, bon, dans les années 70, 80, 90, etc. Et je voyais bien que c'est ça qui allait m'aider à écrire, ça allait être ça, mon matériau, en fait. C'est comment le passage du temps s'inscrit dans le quotidien même. C'est là-dessus que je rejoindrais tout à fait Annie Ernaux. Comment des éléments, disons, généraux viennent affecter votre quotidien. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que nos quotidiens sont toujours affectés par quelque chose qui se joue et qui est plutôt général, qui est une expérience commune, des évolutions très très communes. Voilà. Ce qui m'a bien aidé aussi à faire passer le temps, parce que c'est compliqué de suggérer que du temps passe sans avoir recours à des formules comme 3 ans plus tard, et il se passa 6 mois sans que. Je ne voulais pas de ces formules-là, parce que je voulais que le temps soit partout, comme Dieu, tout en étant absolument invisible.
Ouais, et ce que je disais tout à l'heure aussi, à la fois très 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 rapide, extrêmement condensé et très tranquille. Vraiment, il y a quelque chose dans la construction de ce texte qui fait en une seule phrase naître quelqu'un, mourir quelqu'un d'autre, de sorte que, comme on le dit un peu dans le langage courant, on n'a pas vu le temps passer, quoi. On n'a pas vu une vie passer. C'est quand même ce sentiment qu'on a à la fin, au-delà d'avoir accompagné Jeanne et Jacques dans une histoire d'amour. On ne peut pas s'empêcher de dire, ah donc une vie, ça tient en 80 pages. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là que je trouve très bouleversant, quoi, et qui est du même ordre que, je sais pas, 1979 sur une tombe dans n'importe quel cimetière de province.
Je pense le grand scandale constitutif de nos existences, je dis bien le scandale, c'est bien leur brièveté. Alors, on peut dire, mais c'est débile de parler de brièveté d'une vie. Pourquoi 70 ans serait bref, alors que quoi, 120 ans serait pas bref? C'est bizarre, mais
non,
c'est le sentiment
qu'on a. Non, c'est bref, quoi qu'il en soit, non?
Je pense que c'est bref, d'abord, on pourrait quand même objectiver un peu la chose en disant que c'est tout à fait bref par rapport à nos capacités. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si une belette vit 25 ans, je sais pas combien de temps vit une belette, on va dire 25 ou 10 ou 8, bon. Bon, par rapport à ses capacités cérébrales, par exemple, je ne veux pas sous-estimer la belette, mais je pense qu'elle a quand même moins de capacités cérébrales que vous. Elle a un peu fait le tour de ses capacités dans le temps qui lui est imparti. Le vrai scandale de l'existence humaine, c'est que nous avons une capacité infinie de penser, d'appréhension de tout un tas d'objets, artistiques ou autres. Ça peut être un champignon, ça peut être un Dostoïevski, ça peut être n'importe quoi. Et nous n'avons absolument pas le temps d'exercer ces capacités. Donc c'est un scandale. Et donc nous vivons, je pense, que les anciens, quand ils vous disent « la vie a filé à une vitesse dingue », eh bien je pense que là-dessus, ils ont raison. C'est un ressenti qu'ils ont. Et je voulais, effectivement, enfin, il y a un moment, c'est devenu presque une obsession quand j'écrivais ce livre. Je me dis, j'aimerais bien que le lecteur éprouve ça. Éprouve, ah, c'est déjà fini. Et parce que j'ai bien peur. J'angoisse terriblement de
oui,
considérer...
c'est exactement ce que j'allais vous dire. Je veux dire, vous faites vraiment des petites blagues en mode belette et Dostoïevski, alors qu'il me semble que le livre dit autre chose, dit peut-être que c'est beaucoup plus vertigineux que des histoires
oui,
de comparaison.
Mais vous savez, à chaque fois que je fais des blagues, dites-vous bien qu'il doit y avoir quelque chose d'angoissant derrière, quoi. Sinon je ne ferais pas de blagues. Donc, de fait, le passage par la belette me permet de ne pas dire quelque chose de tout à fait vertigineux, enfin en tout cas que je ressens comme vertigineux, à savoir l'immense tristesse et désarroi qui vient aux anciens, quand ils sont plutôt vers la fin, de voir que la vie c'était donc ça. Parce que je pense que nous autres, qui sommes un tout petit peu moins proches de la fin, moi j'ai 52 ans, je suis un peu moins proche de la fin que mon père qui en a 80 par exemple, on s'illusionne toujours un peu, quoi. Nous sommes toujours un peu sujets au divertissement pascalien là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on se raconte un peu des histoires, on se dit toujours qu'on a quand même le temps. Mais finalement la vie est quand même peut-être plus longue que le pressentiment qu'on en a. En fait c'est pas vrai, la vie est scandaleusement brève.
Un jour dont la date s'est perdue, Jeanne est dans sa cuisine lorsqu'elle voit une inconnue en tailleur pousser le portail en fer forgé et s'engager dans la sente d'allée. Jeanne se sert un verre dont la première gorgée lui reste en travers de la gorge. Celle qui s'est présentée comme Nicole a fini par trouver les mots pour dire qu'elle a eu une liaison avec Jacques un hiver il y a 5 ans. Du moins une bonne partie de l'hiver. Et un peu le printemps aussi. Soudain, Jeanne se sent toute vieille avec son tablier et ses racines blanches, face à cette femme de 10 ans de moins que sa mise rajeunit encore. La liaison a pris fin quand Nicole est tombée enceinte, sans savoir de qui était l'enfant. Je suis mariée, moi aussi. Je voulais dire que j'ai des rapports avec mon mari. Moi pas. La pointe du couteau de Jeanne attaque une autre pomme. Encore 4 et on aura le compte. Elle trouve que l'autre ne s'emmerde pas de venir lui déballer tout ça dans sa cuisine. Elle le dit. Nicole est désolée. Nicole est désolée, mais il fallait qu'elle déballe. Ça fait des années que cette histoire lui fout une boule dans le ventre. Elle n'est pas fière du tout. Elle n'aimerait pas qu'on lui fasse pareil. Moi non plus, j'aimerais pas. Jeanne visualise que la boule a jailli des entrailles de Nicole pour pénétrer dans les siennes. Tout le poids est passé sur elle. Jeanne se lève, prend un couteau qu'elle tend à Nicole, soulagée de pouvoir occuper ses doigts. Elle raconte que son mari et elle avaient engagé Jacques pour planter des fleurs grimpantes au pied de leur tonnelle. Un jour, il s'est coupé au niveau de la paume. Ça saignait pas mal, elle l'a guidé vers l'armoire à pharmacie. Et c'est parti comme ça. Il se coupe jamais. Là, si. Bon, ça suffit comme ça. Inutile en effet de peler plus de pommes.
Nicole rabat la feuille de journal sur les pelures. En jetant le tout à la poubelle, elle dit que Jacques n'était pas très fier non plus. Une des dernières fois où ils se sont vus, il lui a dit que la femme de sa vie, c'était elle, et personne d'autre. C'était qui ? C'était vous.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
François Bégaudeau, un extrait de L'amour légèrement monté, mais pour avoir l'entièreté de la scène. Jeanne et Nicole, cette femme qui vient lui dire qu'elle a eu un moment comme ça d'amour avec Jacques. Vous faites une petite place à cette question qu'on pourrait dire infidélité, adultère ou juste autres amours dans l'existence de Jeanne et Jacques, qui est une place qui se retrouve à la fin dans un espace un peu indéterminé, après la mort, dans les limbes, dans un endroit où on pèse un peu moins lourd. Est-ce que c'était évident qu'il fallait faire cette petite place-là à la question de est-ce qu'on aime d'autres personnes, est-ce qu'on se fait l'amour avec d'autres personnes quand on passe 50 ans avec quelqu'un ?
Bon, c'est évident que je me suis posé la question à un moment. Je veux dire, est-ce qu'ils auront des épisodes, des relations un petit peu extra-conjugales, comme on dit ? Je me suis posé la question et je ne savais pas la trancher, cette question, en termes de vraisemblance psychologique, parce que à la rigueur, on pourrait très bien se dire que finalement, Jeanne et Jacques n'ont jamais eu de relation extra-conjugale. Et on pourrait tout à fait trouver vraisemblable qu'en fait, ils en ont eu. Les deux sont vraisemblables. Alors, ce qui va trancher, c'est est-ce qu'il y a une scène à faire dans cette affaire ? Voilà. Est-ce qu'il y a une scène à faire ? Est-ce qu'il y a un truc à jouer intéressant ?
Est-ce qu'il y en a deux, en l'occurrence, avec le rappel de la fin ?
Ouais. Et je pensais beaucoup comme ça à quelle serait la réaction de l'un ou de l'autre. Je n'avais pas tranché à ce moment-là lequel serait trompé, comme on dit. J'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin bon, c'est le mot en usage. Et c'est la réaction qui m'intéressait. Et là, comment dire, là, il faudrait peut-être aller chercher Saint-Paul, quoi, justement, dans ce beau passage de ce texte que vous avez lu en introduction. L'amour ne jalouse pas. Alors moi, j'aime bien voir quand des gens, non pas, ne sont pas sujets à la jalousie, parce que c'est compliqué de ne pas être sujet à la jalousie, mais j'aime assez voir que des gens luttent contre leur propre jalousie. Et c'est ce que fait Jeanne à ce moment-là. Et c'est ça que j'avais envie d'écrire. Je voulais voir comment elle est capable de prendre sur elle. D'ailleurs, elle ne prend qu'à moitié sur elle, puisqu'on verra dans les pages suivantes qu'elle ourdit une petite vengeance tranquille, une vengeance pas très agressive, mais une petite vengeance quand même. Elle crée une contre-vexation. Mais sur le moment, j'aime beaucoup cette capacité de prendre, d'encaisser.
A questionné de l'attribuer à une femme ou pas du tout ?
En fait, je me suis vraiment demandé dans un premier temps qui serait. Et en fait, là, pour le coup, j'avais envie d'être dans le schéma presque canonique. Enfin, des fois, il faut passer par des lieux communs, un peu des topos.
Aussi parce qu'il y a des années, il y a une époque, il y a quelque chose, peut-être.
Voilà. Je pense que fut un temps, on peut supposer que les hommes étaient peut-être un peu plus volages et se permettaient un peu plus de sorties extra-conjugales.
Qu'est-ce qu'on en sait en même temps ?
Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais intuitivement, bon, j'ai quelques exemples en tête, pour tout dire. Mais enfin, voilà, c'est comme avec tous les lieux communs, ils ont toujours une part de vérité, puis une part de lieu commun, c'est-à-dire une espèce de vérité admise qui n'est plus interrogée. Mais disons que je suis parti un peu de là, quoi. Parce que ce qui m'intéressait, c'était pas ça. C'était pas de voir qui, de l'homme ou de la femme, est le plus enclin à tromper l'autre.
Mais plutôt comment
c'était
on fait.
Comment on fait, quoi. Et bon, ça peut se manifester comme ça. Bon, autre chose était, ce qu'on a entendu dans la belle lecture qu'on vient d'entendre, bon, vous voyez, voilà, vous me demandiez comment faire passer les choses sans les dire directement. Bon, mais Jacques ne dira jamais à Jeanne qu'elle est la femme de sa vie. Alors, c'était une façon pour moi de le faire comprendre, je veux dire, par trois intermédiaires. Il se trouve que par une espèce d'ironie tragique, c'est la femme avec laquelle Jacques a trompé Jeanne qui finalement produira sans doute l'énoncé le plus violemment amoureux de Jacques dans tout ce livre.
Le Book Club, c'est une communauté de lectrices et de lecteurs. J'aimerais qu'on écoute pour terminer la voix d'Isabelle qui a lu votre livre.
Bonjour le Book Club, bonjour François Bégaudeau. Je vous remercie pour cette lecture de votre livre parce que à travers l'histoire de Jeanne et Jacques, à titre tout à fait personnel, moi j'y ai vu l'histoire de mes parents. De cet amour, en fait, que j'ai cru longtemps absent, surtout à l'adolescence, je préférais largement l'effusion des sentiments. J'ai reconnu les miens, et puis j'ai refermé votre livre « Les larmes aux yeux », comme quoi vous avez réussi, à travers l'histoire d'un couple, banal et ordinaire, à émouvoir.
Merci beaucoup à Isabelle qui a lu votre livre et qui partage sa lecture. Qu'est-ce que vous entendez dans ce qu'elle vous dit de votre propre livre, François Bégaudeau ?
Ouais, j'entends disons, le retour de lecture qui me plaît le plus depuis que ce livre est sorti, puisque finalement les retours de lecture les plus simples sont les plus beaux. Bon, moi, quand on me dit qu'on a pleuré devant le livre, ça me va très bien. Je veux dire.
Et l'idée qu'on y reconnaît les siens.
Alors ça, je l'entends beaucoup, évidemment, aussi. Je recueille un nombre de témoignages foisonnants depuis la sortie de ce livre. Je pourrais écrire un deuxième livre, je crois.
L'amour numéro 2.
Alors souvent, on évoque, les gens qui ont mon âge évoquent leurs parents, ou des gens qui sont un peu plus jeunes que moi évoquent leurs parents. Et c'est assez vrai, je pense que ça tient à la période à laquelle j'ai situé, notamment le début de l'histoire entre Jeanne et Jacques. Donc évidemment, je pense que ça nous évoque des gens qui auraient maintenant 75, 80 ans. Mais ça me plaît bien. Je veux dire, j'ai parfois, dans mes moments d'aristocratisme mal placé, je trouve que les lectures identificatoires sont médiocres. Vous savez, quand on dit « moi j'ai aimé ce livre parce que je m'y suis reconnu », je trouve que c'est toujours la façon la plus médiocre d'aimer un livre.
Et
en fait, fondamentalement, je trouve que c'est on s'identifie toujours à un livre. Je veux dire, moi, tout à l'heure, je parlais de Beckett. Oui, il n'y a pas de personnage auquel je m'identifie chez Beckett, en fait. Mais je m'identifie. C'est-à-dire que j'ai trouvé un ami en Beckett. Donc, en fait, il n'y a jamais d'adhésion à un livre qui ne soit pas de près ou de loin identificatoire. Donc, je suis plutôt ravi d'entendre ça, quoi.
L'amour s'est publié aux éditions Verticales. Merci beaucoup François Bégaudeau d'être venu en parler.
Merci à vous.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est 15h50 sur France Culture et à cette heure-ci, on reçoit de la visite dans le Book Club. Tous les jeudis, on prend des nouvelles du livre dans le monde grâce à notre réseau de correspondants de Radio France à l'étranger. Aujourd'hui, on reçoit un appel de Malaisie où notre correspondante Juliette Pietraszewski nous parle d'agacement et de crainte parmi certains acteurs du monde du livre. Bonjour Juliette.
Bonjour Marie.
Derrière ces sentiments mélangés se cache une récente saisie de livres permise grâce à une loi de 1984.
Oui, et cette saisie de livres concerne la librairie de Ben Zali, qui est également auteur. Cet été, quatre personnes du ministère de l'Intérieur ont passé la porte de son magasin Toko Buku Rakyat, qui signifie plus simplement la librairie populaire en malais. À l'intérieur de cette petite boutique, des livres sur la philosophie, la politique, la religion et l'histoire, beaucoup traduits en malais pour les rendre accessibles. Deux livres ont donc finalement été saisis chez le libraire Ben Zali, à savoir un livre sur Karl Marx et un second qui s'appelle Kolexi, Puisi Masturbasi, littéralement un recueil de poèmes sur la masturbation, un recueil écrit par l'écrivain Ben Zali lui-même, présenté comme une conversation qui se moque d'une discussion intellectuelle qui ne suit la voie d'aucun changement. Cette perquisition, elle est autorisée par une loi en Malaisie appelée The Printing Presses and Publications Act, c'est-à-dire la loi sur les presses et les publications. Elle date de 1984, vous l'avez dit tout à l'heure Marie, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait à nouveau l'objet de débats, et pas uniquement dans le monde du livre, mais aussi au sein des organisations de défense des droits humains. Cette législation est en effet pointée du doigt par une partie de la société qui qualifie la loi de draconienne, limitant par la même occasion la liberté d'expression.
Mais là, pour qu'on comprenne bien, Juliette, pourquoi est-ce que cette loi, qui date de 1984, fait l'objet de débats spécialement aujourd'hui en Malaisie ?
Eh bien parce que l'actuel Premier ministre Anwar Ibrahim, qui a été élu il y a presque un an, a très longtemps incarné une figure réformiste lorsqu'il était dans l'opposition. Et dans son manifeste pour les élections l'an dernier, son parti s'était engagé à revoir, à abroger les lois considérées comme des obstacles à la liberté d'expression. Et dans ce contexte, des ONG ont rappelé à plusieurs reprises que le gouvernement de réforme actuel devait faire ce qu'il avait promis. Et du côté des intéressés, le ministre de l'Intérieur malaisien a déclaré au Sénat en avril dernier qu'il n'était pas nécessaire que le gouvernement se précipite pour abolir la fameuse loi, mais que le ministère continuerait à mener des études sur sa révision sans donner plus de précisions.
Et du côté des éditeurs en Malaisie, Juliette, est-ce qu'ils sont aussi concernés par cette fameuse loi de 1984 ?
Oui, alors ils peuvent effectivement être confrontés à cette législation. Dans la presse asiatique, on cite notamment Gerak Budaya, un éditeur et distributeur de livres. En 2020, un ouvrage issu de cette maison d'édition, intitulé « Renaissance, réforme, résistance et espoir en Nouvelle-Malaisie », a été saisi, puis interdit, en raison en fait de la représentation des armoiries de la Malaisie sur sa couverture. Et d'ailleurs, cette semaine, Kian Wong, l'auteur de ce livre qui fait l'objet d'une enquête, a été arrêté. Avant ce dernier épisode, le fondateur, en tout cas de la maison d'édition, Gerak Budaya, s'était déjà excusé pour la couverture du livre, ne souhaitant heurter personne, c'est ce qu'il a déclaré. Mais il a aussi déclaré que la fameuse loi n'avait plus beaucoup de sens à notre époque, puisque presque tout est désormais disponible en ligne. Et cette analyse, Marie, eh bien, elle est partagée par l'écrivain Ben Zali, dont on parlait tout à l'heure. Écoutez.
Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, on peut vendre de tout. On peut mettre mon livre en ligne, on peut même le partager, même jusqu'en France. Donc le gouvernement ne peut pas nier le fait que cette législation ne pourra plus durer très longtemps. Le gouvernement devrait discuter avec les libraires, avec les écrivains, des raisons pour lesquelles ils veulent que tel ou tel livre soit interdit. Ils devraient en discuter d'abord, sans prérogative des autorités, avec le pouvoir de dire seulement « ce livre est mauvais, ce livre est bon ». Alors moi, je suggère au gouvernement d'Anwar Ibrahim, comme au suivant, peu importe, qu'il doit faire en sorte qu'un dialogue ait lieu. Parce qu'avec Internet, on ne peut plus interdire de livres trop longtemps. Si tu interdis un livre sans publier une bonne explication, il y aura toujours des gens qui vont me solliciter, me demander « avez-vous ce livre ?» Parce que oui, moi j'ai de la demande.
Voilà pour cette prise de parole de l'écrivain et libraire Benzali, qui m'a aussi demandé de faire passer un message auprès des amateurs de livres du monde entier, Marie. Il faut soutenir vos libraires et vos auteurs locaux.
Eh ben, le message, j'espère, est passé. Un très grand merci, Juliette. On peut réécouter Lecture sans frontières sur franceculture.fr. C'est l'heure de jouer dans le Book Club. Tous les jours à cette heure-ci, on joue au grand jeu des pages musicales. D'habitude, on pioche dans vos trouvailles de lecture. Il s'agit d'évocations d'airs musicaux dans les paragraphes des livres que vous lisez. Mais puisqu'il y a plein de musique dans L'amour de François Bégodeau, on a eu envie de jouer à notre tour. Donc c'est nous qui jouons. La pièce montée arrive. Au sommet du gâteau, deux mariés se tiennent la main. Lui, costume noir, elle, robe blanche. Lui, haut de forme, elle, couronne nuptiale. La chanteuse de l'orchestre les appelle pour lancer le bal. Fort des verres de pinot accumulés, Jacques y va sans peur et fait tout comme Jeanne lui a appris. Il arrive même à chanter en même temps sans désynchroniser ses pas. Il y a juste un moment où il dit les paroles de Sylvie et passe son tour sur celles de Johnny. Il se reprend sur le refrain où les deux sont en chœur. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu y ressembles. Jeanne apprécie que son désormais mari ne lui ait écrasé qu'une seule fois les pieds déjà en compote dans ses escarpins pointus. L'orchestre enchaîne avec une série de valses pour les anciens qui partiront plus tôt, contents d'en avoir été et contents d'en partir. La mère de Jeanne surmonte sa lassitude pour rester. C'est pas tous les jours qu'on marie sa fille. Souriante et triste, elle regarde les couples se former pour les rocs où excelle Nathalie, première témoin de la mariée, et Guillaume, brancardier dans le même CHU qu'elle. Ces deux-là, s'ils ne sont pas déjà ensemble, ça se fait dans la nuit.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème.
Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même.
Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne.
C'est la chance ou bien c'est de la folie.
Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux.
Je sens bien que je t'aime.
Oh, j'ai un problème.
Au son aujourd'hui, c'était Ruben Carmazine à la réalisation, Colin Gruel. Merci à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Anouk Delfino, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Didier Pinault, Léa Weiss-Grus et Auriane Delacroix. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et vous abonner au podcast via l'appli Radio France. Très bel après-midi sur France Culture.
J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi.